Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias, je m'appelle Steven Jambeau. On est ensemble pendant une vingtaine de minutes si vous nous écoutez à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. Les élections européennes se dérouleront du 23 au 26 mai. La campagne électorale bat son plein et avec elle son lot de déclarations mensongères ou erronées et de fausses nouvelles, les fake news. C'est pour les contrer que des médias s'associent, pour fact-checker, vérifier ensemble les faits et démêler le vrai du faux. Vous entendrez successivement Jules Darmanin, qui coordonne l'action de 19 médias européens contre les fake news à l'approche du scrutin. Puis Éric Nahon, directeur adjoint de l'école de journalisme IPJ Paris-Dauphine, nous racontera comment, avec ses étudiants, il alimente le site eufactcheck.eu qui rassemble une vingtaine d'écoles de journalisme européennes.
http://atelier.rfi.fr
Internet est un terrain de jeu dangereux. Dès ses origines, le parti populiste a confié sa communication à un cabinet de marketing Internet, la spécialité de son mentor, qui a cofondé le mouvement 5 étoiles, diffuser une fausse information en ligne et convaincre l'opinion que la classe politique leur cache la vérité.
Vous venez d'entendre un extrait d'une web-série intitulée « L'Europe en vrai ». Elle est diffusée par RFI et déconstruit 6 infox très répandues concernant l'Europe. Place maintenant à notre premier invité.
RFI.
Je m'appelle Jules Darmanin, je suis le coordinateur du projet Fact Check EU qui rassemble 19 médias dans 13 pays d'Europe et ce qui fait qu'on couvre 11 langages dans le projet.
Alors ces médias se sont rassemblés pour faire du fact-checking autour des élections européennes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'est venue cette idée ?
Il y avait déjà le constat que les fausses informations circulaient à travers l'Europe. Ce qui fait qu'une fausse information qui va d'abord apparaître par exemple en Allemagne ou en Europe centrale, progressivement va aller vers les autres pays, va être traduite en anglais, puis ensuite dans les autres langues de l'Union européenne. Et donc ça, c'est un constat qui a été fait bien avant les élections européennes et à l'occasion des élections européennes. Et pour savoir un peu, quand les médias se sont demandé un peu quelle réponse on pouvait donner à ça, il y a eu cette idée de collaboration à la fois sur les élections européennes, sur l'Europe, mais aussi sur les thèmes en fait de la campagne des élections européennes, que ce soit les migrations, que ce soit l'écologie ou d'autres thèmes qui peuvent un peu influencer la campagne.
Donc l'idée, ce n'est pas seulement de vérifier le discours politique, mais également tout ce qui tourne autour.
Bien sûr, il y a certains des médias qui sont partenaires, qui sont vraiment spécialisés dans ce qu'on appelle le fact-checking politique, c'est-à-dire prendre les déclarations de personnalités politiques et les traiter. D'autres médias sont spécialistes de ce qu'on appelle le debunking ou le fact-checking de fausses informations, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux et démontrer que ce sont des rumeurs. Et ça, c'est deux styles différents, c'est deux pratiques qui sont légèrement différentes, mais qui se retrouvent finalement assez souvent, et c'est un peu les deux choses qu'on retrouve principalement sur la plateforme.
Comment est-ce que vos médias partenaires, justement, choisissent les sujets dont ils s'emparent ?
Ça dépend de chaque média, et je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est de comprendre que les fausses informations et les thèmes des fausses informations dépendent assez souvent du discours politique d'un pays. C'est-à-dire, typiquement, en Espagne, il y a Vox, le parti d'extrême droite qui a fait son entrée dans les élections législatives en Espagne. Vox a un discours qui touche beaucoup les questions des lois qui défendent les droits des femmes contre les violences genrées. Et donc, ils ont un discours qui est très contre l'arsenal législatif espagnol contre les violences contre les femmes. Ils considèrent que c'est des lois qui sont trop biaisées ou qui, en tout cas, mettent en danger un certain nombre d'hommes. Et donc, il y a beaucoup de fausses informations en Espagne autour de ces thèmes-là, ce qu'on va moins retrouver dans d'autres pays.
A-t-il été facile et est-il facile de faire collaborer, vous l'avez dit, 19 médias de 13 pays dans 11 langues différentes ? Y a-t-il des façons de fonctionner qui diffèrent et également des thématiques qui, pour le coup, elles sont transnationales et qui donc peuvent être adaptées d'une langue vers l'autre ?
Alors, il y a plusieurs choses. D'un point de vue des thématiques, on trouve quand même qu'il y a des similitudes. Je parlais tout à l'heure des migrations. De fait, les migrations, c'est un thème qui touche de façon transversale les pays d'Europe, ce qui fait que on va trouver des fausses informations à ce sujet-là dans tous les pays, et notamment en fait les mêmes fausses informations. Les fausses informations sur l'Europe en tant qu'institution également sont des choses qu'on va trouver d'un pays à un autre. Ensuite, pour ce qui est de la collaboration, les médias font tous partie du réseau qui est le réseau international de fact-checking, qu'on appelle aussi l'IFCN en anglais, ce qui fait qu'ils ont tous des critères de transparence qui sont similaires. Ça, c'est important.
Dans les discussions que vous avez avec les 19 médias partenaires de FactCheck EU, constatent-ils, vos partenaires, un volume de fausses informations important autour de ces élections européennes?
Par rapport à l'Europe, il y a une augmentation des choses sur l'Europe, mais il n'y a pas une déferlante absolue de fausses informations autour de l'Europe. Je pense que une des raisons pour lesquelles il n'y a pas une déferlante de fausses informations, c'est que dans la plupart des pays, les élections européennes restent quand même des élections nationales, où on va parler de thèmes nationaux qu'on va appliquer à l'Europe, mais ça engage rarement un débat énorme sur l'Europe, en tout cas beaucoup moins que ce qu'on a vu évidemment en Grande-Bretagne, enfin au Royaume-Uni avec le Brexit.
Lors des élections présidentielles américaines, on a beaucoup pointé du doigt l'ingérence russe à travers les fausses nouvelles. Et autour de ces élections européennes, certains voudraient voir un rôle de la Russie. Et je crois que ce que vous pensez, vous, Jules Darmanin, c'est que nous n'avons pas besoin, et ceux qui veulent diffuser des fausses nouvelles à travers le continent européen n'ont pas besoin de la Russie.
Il y a plus que la Russie finalement. La Russie, et ça s'est prouvé, a des tactiques d'ingérence qu'elle a eues aux États-Unis, qu'elle a en Ukraine et qu'elle a potentiellement en Europe. Je n'ai pas d'éléments qui permettent de le montrer désormais, mais ce ne serait pas quelque chose de surprenant. Ce ne serait pas surprenant que d'autres pays également aient les mêmes pratiques à diverses échelles. Donc ça, c'est une chose. Et en effet, la Russie est un pays qui pratique un soft power qui est très important à travers ces médias que sont RT et Spoutnik, mais également à côté de ça, une des informations plus clandestines à travers ce qu'on a appelé les usines à trolls à Saint-Pétersbourg qui diffusent des fausses informations, qui manipulent les réseaux sociaux. Ça, c'est une chose. Mais si on se focalise sur la Russie et qu'on considère que la Russie est la seule et l'unique cause de désinformation dans un espace qu'est l'Europe, je pense qu'on passe à côté beaucoup de choses. Déjà, on passe à côté de la désinformation qui vient des personnalités politiques des pays d'Europe. On passe aussi à côté de la désinformation qui circule de façon organique dans les réseaux sociaux, en France et dans les autres pays d'Europe, et d'ailleurs de partout dans le monde. Et donc, en pointant un espèce de projecteur sur une seule cause, je pense qu'on court le risque d'ignorer les autres causes de désinformation. Et en tout cas, moi, dans ma démarche de coordinateur de ce projet qui est FactCheckEU, je me concentre relativement peu, ça veut pas dire que j'ignore, mais je me concentre relativement peu sur les causes, parce que c'est pas toujours facile à trouver, les causes d'une désinformation. Et j'essaye plus de lutter contre les conséquences et de lutter contre la propagation de la fausse information.
Merci Jules Darmanin.
De rien.
Et je rappelle que vous êtes coordinateur de FactCheck EU, une plateforme qui rassemble 19 médias européens de fact-checking autour des élections européennes. Pour plus d'informations, leur site c'est factcheckeu.info.
Atelier@rfi.fr.
Avant de poursuivre, deux informations brèves. Facebook ouvre une war room pour les élections européennes. Le réseau social a décidé de mettre en place une cellule de vérification au sein de ses bureaux basés en Irlande. L'objectif de cette war room est de veiller à ce que la propagation de fausses informations, de faux comptes et de possibles ingérences étrangères n'ait pas d'impact sur l'issue des élections européennes. 40 personnes y participent. Aucun chiffre n'a pour l'instant été communiqué sur ces potentielles premières actions. transactions. L'heure est donc à la prudence et le responsable cybersécurité de Facebook reconnaissait dans une interview au Guardian « Nous ne pouvons pas gérer tous ces problèmes seuls ». On vous parlait la semaine dernière de deux journalistes de l'agence Reuters en Birmanie. Ils étaient détenus depuis leur arrestation en décembre 2017 alors qu'ils enquêtaient sur un massacre commis contre la minorité musulmane des Rohingyas. Mardi, on a appris leur libération suite à une amnistie présidentielle. Ils clamaient haut et fort dès le début avoir été piégés par la police. Notons la mobilisation exemplaire de l'agence Reuters qui écrivait dans une dépêche dès leur arrestation « C'est une atteinte grossière à la liberté de la presse ». Et sachez qu'ils ont passé au total plus de 500 jours en prison simplement pour avoir fait leur métier. Poursuivons notre émission sur le fact-checking autour des élections européennes avec un projet porté par 20 écoles de journalisme en Europe. Les étudiants de l'IPJ à Paris y participent et pour en parler, j'ai tendu mon micro à Éric Naon.
Bonjour, je m'appelle Éric Naon, je suis journaliste et directeur adjoint d'IPJ Paris Dauphine.
Avec vos étudiants, vous avez lancé le site eucheck.fr. Expliquez-nous.
Eucheck.fr, c'est un site pilote qui servait à tester une méthodologie de fact-checking développée dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle eufactcheck.eu. Et eucheck.fr, ça mélange des étudiants en journalisme, des étudiants en sociologie, affaires publiques et des étudiants ingénieurs aux mines. Des vidéos avec des textes pour travailler sur des assertions douteuses ou en tout cas qui nécessitaient d'être vérifiées.
Et vérifier, ça passe aussi par se rendre compte parfois qu'il y a une partie de l'information qui est bonne, mais que cela a été détourné en fait pour faire croire des choses pas vraies.
Voilà, c'est l'instrumentalisation d'une partie de la vérité, ou en tout cas de faits objectivable, parce que la vérité également est subjective, on est dans une ère de post-vérité. Donc finalement, la vérité devient une opinion comme une autre. Donc toute l'idée de ce projet de YouFactCheck, c'est de travailler sur des faits objectivables et remettre finalement les faits au centre de nos préoccupations. Et donc de dire dans une assertion, ceci est vrai, ceci est faux, ou comme c'est le cas dans un des articles les plus passionnants qu'on a sur YouFactCheck, sur les serviettes hygiéniques qui contiendraient 90% de plastique. Assertion qui a été faite par une marque de serviettes hygiéniques bio, qui disait que toutes les autres avaient 90% de plastique. On a lancé une équipe dessus qui a fait un travail absolument remarquable et nous avons conclu que cette information était invérifiable. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait quand c'est invérifiable ? On lit l'article, on se rend compte que probablement c'est vrai, qu'on n'avait pas les moyens de faire une vérification réelle en labo et de découper les choses, mais au vu du faisceau d'indices, on pense qu'effectivement, il y a 90% de plastique dans ces serviettes hygiéniques, mais on ne peut pas le dire à 100%. Donc on l'explique. Et c'est ça qui est absolument passionnant, c'est que ce doute, finalement, il n'y a pas une vérité, mais il y a une assertion de fait et on laisse le lecteur juge.
Vous l'expliquiez tout à l'heure, vous avez créé des équipes pluridisciplinaires, donc des étudiants en journalisme d'IPJ Dauphine, des universitaires de Dauphine qui travaillent en sociologie ou en affaires publiques, et également des étudiants de l'école des mines qui sont donc ingénieurs sur des sujets environnementaux en particulier. Pourquoi cette volonté justement d'associer ces profils différents et ces cursus différents ?
Ça c'est quelque chose qu'on fait beaucoup à IPJ Dauphine, c'est le journaliste avec. L'idée de co-construire un sujet avec ses experts nous amène quelque chose de vraiment différent. Et ce sont des choses qui se passent aujourd'hui dans les rédactions. Il y a tout un tas aujourd'hui de métiers dans les rédactions, des métiers informatiques, de développeurs, etc. De gens qui n'ont pas de formation journalistique, qui ont une appétence pour l'information, mais qui ne sont pas journalistes. Et les journalistes doivent trouver les mots, travailler avec et ne pas travailler en vase clos. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. D'où ce projet YouCheck, avec des étudiants qui viennent de formations complètement différentes, pour travailler sur un objet à vocation journalistique, ou en tout cas, ce que je choisis généralement bien mes mots auprès de ce public non journaliste, de travailler pour quelque chose qui a vocation à informer le public.
Alors quel est le sujet fact-checké qui a le plus marché, entre guillemets, chez vous ?
Sur la version française comme sur la version anglaise, c'est un sujet sur les migrations, une assertion qui a été postée par un membre anciennement des identitaires, proche aujourd'hui du Rassemblement National, qui expliquait qu'avec le pacte de Marrakech, 380 millions de migrants allaient venir en France. Et cette assertion est fausse, parce qu'effectivement, ce chiffre n'existe pas. En premier lieu. D'autre part, si effectivement il y a des migrations, le pacte de Marrakech, en tout cas, il n'y a rien dedans. Donc on montre bien qu'il n'y a absolument rien. avec des recherches visuelles dans le texte par mots-clés. Il y a rien du tout dedans. On est allé faire appel à des démographes pour parler des chiffres de migration, qui nous ont également expliqué que c'était encore plus faux, parce que si ces migrants, si effectivement dans les, on pouvait arriver à des chiffres de migration comme ça sur le continent africain, on se rend compte que quand il y a des migrations climatiques, économiques ou dues à des guerres, les migrants ne changeaient pas forcément de pays, mais allaient généralement du sud vers le nord, ou de l'est vers l'ouest, ou de l'ouest vers l'est, mais toujours dans leur pays. Et en plus, s'ils viennent en Europe, ils ne viennent pas forcément en France. Donc voilà, on a détaillé ça de manière assez méthodique. Les élèves ont détaillé ça de manière très méthodique pour expliquer que tout était faux dans cette assertion. Ça, ça a beaucoup marché. J'ai parlé également des serviettes hygiéniques. Ça a très, très bien marché. Et encore plus quand, après, le magazine 60 millions de consommateurs, travaillant en parallèle de ce côté-là, a sorti un numéro spécial sur les plastiques dans tous ces produits du quotidien.
Ce qu'on comprend en vous écoutant, c'est qu'il n'est plus possible maintenant de faire une formation au journalisme sans avoir une classe ou des cours de fact-checking.
Aujourd'hui, en tout cas en France, toutes les écoles de journalisme dites reconnues ont intégré dans leur cursus du fact-checking, absolument.
Et sentez-vous qu'il y a des étudiants dans votre école, donc à l'Institut pratique du journalisme, qui ont la fibre et ont vraiment envie de se spécialiser dans le fact-checking ?
On en a évidemment quelques-uns. Il faut savoir que depuis 3 ans maintenant, le cours de fact-checking est un cours optionnel en deuxième année, donc un cours presque de spécialisation, mais qu'à partir de l'année prochaine, ce cours va arriver dans le tronc commun. Il va être donné en première année, au même titre que les cours d'écriture journalistique ou de base de télévision. Et on veut que ce fasse partie du trousseau, du kit que tout journaliste qui sort de chez nous aura eu.
Merci Eric Naon.
Je vous en prie.
Et on rappelle donc les sites eucheck.fr et eufactcheck.eu. À bientôt.
À bientôt.
C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de Mondoblog Audio. Cette semaine, Carole Rico, installée à l'île Maurice, dans l'océan Indien, nous parle des fake news qui pullulent sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux que nous sommes nombreux à utiliser.
Fake news, fake news, fake news. Impossible d'échapper à cette expression, tant elle a été martelée par le président américain Donald Trump.
Don't we love that term, fake? What we've learned about fake over the last little while. Fake news.
Aujourd'hui, c'est une des expressions les plus utilisées sur les réseaux sociaux, où ces fake news pullulent. Quand sont-ils devenus des réseaux asociaux?
Ah, je vous jure, cet échange, j'ai envie de les...
Là où la radio unissait, Internet trie et cible. Nos vies numériques sont aujourd'hui gouvernées par de puissants et obscurs algorithmes. Ces redoutables intelligences artificielles ont le pouvoir de nous maintenir dans une bulle cognitive, concept développé par l'américain Eddie Pariser.
You get what I call a filter bubble. And your filter bubble is kind of your own personal unique universe of information that you live in online.
À force d'être entouré d'informations filtrées par des algorithmes, en fonction de nos amis et de nos précédents choix numériques, nous sommes plongés, malgré nous, dans une bulle cognitive qui renforce notre perception du monde et nos propres convictions. Mais, aussi redoutable soit-il, les algorithmes ne savent pas distinguer le vrai du faux. Et voilà comment les réseaux sociaux, qui doivent être nourris en permanence, s'agitent, vivent et grandissent, souvent au moyen de rumeurs et de contre-informations relayées par on ne sait trop qui. Sur Internet, tous les coups sont permis.
Mondoblog.org.
C'était Carole Rico, que vous pouvez retrouver sur son blog Zille Maurice, avec un Z. Et rendez-vous sur mondoblog.org pour retrouver tous les Mondoblog audio diffusés à ce jour. C'est la fin de cette émission que vous pouvez entendre en version longue sur notre podcast. Elle a été préparée avec Camille Sarrazin et Camille Deloche, à la réalisation Simon Decreuse, au micro Steven Jambeau. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio. Nous vous parlerons depuis le salon Vivatech à Paris. On recevra notamment Éric Léandry, le PDG du moteur de recherche français Quant. D'ici là, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner au podcast de l'Atelier des médias.